Chapitre 2. Deux hommes sans le mulet. Le vaisseau était pratiquement prêt à partir. Il ne lui manquait plus qu'une destination. Le mulet avait suggéré de retourner sur Trentor, ruine gigantesque, jadis métropole galactique incomparable, ancienne capitale du plus colossal empire que l'humanité eût jamais connu. Un monde mort, désormais, qui avait pourtant été le centre vital de toutes les étoiles de la galaxie. Preacher désapprouvait cette idée. À quoi bon repartir sur les sentiers battus? Il trouva Bail Chanis dans la salle de navigation du vaisseau. Les cheveux bouclés du jeune homme étaient juste assez ébouriffés pour permettre à une mèche solitaire de venir lui barrer le front. On aurait dit un artifice de coquetterie. Et ses dents régulières se découvraient en un sourire qui ne dépareillait aucunement l'allure séduisante du personnage. Le militaire endurci qu'il était sentit naître en lui un vague sentiment d'hostilité à l'égard de Bail Chanis. L'excitation de celui-ci était évidente.
« Preacher, ça ne peut pas être une coïncidence. Ce serait bien trop extraordinaire.
Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. »
répondit froidement le général.
« Eh bien, dans ce cas, prenez donc une chaise, mon vieux. Il faut que nous causions un peu tous les deux. J'ai parcouru vos notes, vous savez. Je les trouve excellentes, vraiment. »«
Croyez bien que j'en suis flatté. » »«
Mais je me demande quand même si vous êtes parvenu aux mêmes conclusions que moi. Avez-vous jamais tenté d'analyser le problème en procédant par déduction, je veux dire ?»
C'est bien joli de fouiller les étoiles comme ça au hasard, et j'estime qu'avoir accompli tout ce travail en seulement 5 expéditions, cela représente une jolie randonnée interstellaire, du bon boulot, il n'y a pas à dire.
Mais avez-vous calculé combien il vous faudrait de temps à ce rythme-là pour explorer tous les mondes connus?
Oui, j'ai déjà fait ce calcul, et même plus d'une fois.
Preacher ne se sentait nullement disposé à faciliter les choses à son interlocuteur, mais d'autre part, il lui importait de savoir ce que le jeune homme avait derrière la tête, cette tête blonde et bouclée à l'intérieur de laquelle, il ne le savait que trop, se dissimulait un cerveau libre de tout contrôle et dont les réactions étaient par conséquent imprévisibles.
Bon, et si nous procédions par étapes? Tout d'abord, qu'est-ce qu'on cherche au juste?
La seconde fondation,
répondit Preacher d'un ton tranchant.
« Une fondation de psychologue, » le corrigea Chanis. « Aussi faible en physique que la première fondation l'était en psychologie. Vous avez appartenu à la première fondation, ce qui n'est pas mon cas. Pour vous, la conclusion est évidente, je suppose. Nous sommes chargés de découvrir un monde régi par le pouvoir psychique, mais considérablement en retard sur le plan technologique.
Faut-il que la seconde proposition découle nécessairement de la première ?»
demanda tranquillement Preacher.
Notre union des mondes n'est pas du tout en retard sur le plan scientifique, alors même que notre chef suprême doit sa puissance à ses facultés psychiques.
C'est parce qu'il peut compter sur les atouts technologiques de la première fondation, répondit l'autre avec une légère impatience. Et c'est d'ailleurs, soit dit en passant, la seule et unique source de connaissances dont dispose à l'heure actuelle notre galaxie. La seconde fondation, elle, doit se contenter des bribes de savoir laissées ici et là par le défunt empire galactique. Autant dire pas grand-chose.
« Si je vous comprends bien, vous prétendez qu'ils disposent d'un pouvoir psychique suffisant pour établir leur hégémonie sur un ensemble de planètes voisines, alors même que sur le plan logistique, ils demeurent sans défense ?»«
Sans défense. N'exagérons rien. Tant qu'il ne s'agit que des régions environnantes, ils possèdent suffisamment de moyens pour se défendre, mais ils sont désarmés devant les forces résurgentes du mulet, qui a derrière lui une économie atomique parvenue à maturité. D'autre part, pourquoi leur repère a-t-il été si soigneusement caché dès le départ par leur fondateur Harry Seldon? Et pourquoi continue-t-il à se cacher de la sorte aussi longtemps après? Votre fondation, première du nom, ne faisait pas mystère de son existence, et nul ne s'était soucié de la soustraire au regard. Pourtant, il y a 300 ans de cela, ce n'était encore qu'une cité sans défense sur une planète isolée, perdue au milieu de nulle part.
Les traits réguliers du sombre visage de Preacher prirent une expression sardonique. Maintenant que vous avez terminé votre savante analyse, peut-être aimeriez-vous que je vous fournisse la liste exhaustive des royaumes, des républiques, des états planétaires, des dictatures, j'en passe et des meilleurs, qui correspondent à la description que vous venez de faire, sans compter les innombrables facteurs qui n'ont pas été mentionnés.
Ainsi donc, toutes ces éventualités auraient déjà été envisagées ?
Rétorqua Tchanis, qui n'avait visiblement rien perdu de sa vivacité.
Vous ne trouverez pas ces renseignements ici, bien entendu. Mais nous avons établi un guide complet de toutes les institutions politiques de la périphérie opposée. Pensiez-vous vraiment que le mulet était homme à se lancer dans une telle aventure les yeux fermés ?
Dans ce cas,
répondit aussitôt le jeune homme dans un sursaut de vigueur inattendu,
que pensez-vous de l'oligarchie de Finstellis ?
Preacher porta pensivement la main à son oreille.
Finstellis. Je crois bien que ça me dit quelque chose.
Oui, je connais. Ce ne serait pas quelque part dans la périphérie, par hasard ? Je crois que ça se trouve à un tiers de rayon du centre de la galaxie.
C'est cela. Alors, qu'est-ce que vous en dites ?
Les documents qui se trouvent en notre possession affirment que la seconde fondation se situe à l'autre bout de la galaxie. Par l'espace, c'est d'ailleurs bien la seule chose dont nous soyons sûrs dans toute cette affaire. Qu'est-ce que Finstellis viendrait faire là-dedans, je vous le demande ?
Elle forme, avec le radiant de la première fondation, un angle de 100 à 120 degrés. Nous sommes loin des 180 degrés indiqués.
Les archives ne disent pas que ça. Elles précisent que la seconde fondation a été établie à Finistel.
Il n'y a pas dans toute la galaxie un seul endroit de ce genre.
Pour la simple raison qu'il s'agissait d'un toponyme purement local, qu'on s'est empressé de faire disparaître par la suite, afin de renforcer le secret. À moins qu'il n'ait été inventé pour l'occasion par Seldon et par son groupe, allez savoir.
Pourtant, Finistel et Finstellis ont bien quelque chose en commun, vous ne trouvez pas ?
Une vague ressemblance phonique. Là où finissent les étoiles.
Ce n'est pas suffisant, voyons.
Vous y êtes déjà allé, au moins ?
Non.
Pourtant, ce n'est pas ce qu'indiquent vos dossiers ?
Comment cela ?
Ah, oui, si, c'est vrai, vous avez raison. Mais c'était simplement pour nous ravitailler en eau et en nourriture. Cette planète n'avait certainement rien de remarquable.
Vous vous êtes posé sur la planète principale ? Le siège du gouvernement ?
Je ne m'en souviens même plus, c'est vous dire.
Sous le regard impassible de son compagnon, Tchanis se plongea alors dans de profondes méditations. Puis il leva la tête.
« Voudriez-vous venir un moment avec moi jusqu'au galactoscope lenticulaire ?»«
Mais certainement. »
Le galactoscope lenticulaire représentait sans doute alors le fleuron de la technologie spatiale, et plus particulièrement dans le domaine de la navigation interstellaire. Il s'agissait, concrètement, d'un ordinateur extrêmement perfectionné, capable de projeter sur un écran une simulation du ciel nocturne telle qu'on pourrait l'observer dans la réalité depuis n'importe quel point de la galaxie. Tchanis ajusta les axes de coordonnées et en éteignit les lumières de la salle de pilotage. La lueur rougeâtre émanant du tableau de commande de l'appareil empourprait artificiellement le visage de Tchanis. Preacher était assis sur le siège du pilote, ses longues jambes croisées, le visage perdu dans l'ombre. Lentement, à mesure que s'écoulait le temps nécessaire au traitement des données, une myriade de points lumineux se mit à consteller l'écran. Bientôt, une masse compacte d'étoiles de toute magnitude se dessina. La densité de cet amas spectaculaire était à son maximum au centre de l'écran, là où était représenté le cœur de la galaxie. Tchanis s'expliqua.
Voici le ciel nocturne tel qu'on peut l'apercevoir de Trantor en période hivernale. Ceci est un point important, qui, pour autant que je le sache, a été jusqu'à présent négligé dans vos recherches. Où qu'on aille dans l'espace, il est primordial de s'orienter à partir de Trantor. Trantor était la capitale de l'Empire galactique, davantage sur le plan scientifique et culturel que politique d'ailleurs. C'est bien pourquoi la signification d'un toponyme doit, 9 fois sur 10, trouver son origine sur Trantor, Vous vous souviendrez, à ce propos, que même si Seldon était originaire d'Helicon, une planète proche de la périphérie, son groupe travaillait sur Trantor même.
Qu'est-ce que vous essayez de me dire ?
Demanda Preacher, dont la question, énoncée sur un ton glacial, volontairement impersonnel, contrastait d'autant plus violemment avec l'enthousiasme de son bouillant interlocuteur. La carte va vous l'expliquer bien mieux que moi. Vous voyez cette nébuleuse sombre là ? L'ombre de son bras apparut alors sur l'écran, masquant tour à tour les myriades d'étoiles de la galaxie. Son doigt vint se poser sur une minuscule tache noire qui faisait l'effet d'un accroc dans un voile de lumière éthérée parsemé de diamants. Les archives stélographiques la désignent comme étant la nébuleuse de Pelote. Ne la perdez pas des yeux. Je vais agrandir l'image. Preacher avait déjà assisté à un agrandissement d'image stellaire par galactoscopie, mais il ne put s'empêcher d'en avoir une fois encore le souffle coupé. Il avait l'effarante impression de se retrouver devant le visicran du poste de pilotage d'un vaisseau spatial lancé à pleine vitesse à travers une galaxie effroyablement dense, sans jamais parvenir à passer dans l'hyperespace. Paraissant tout émerger d'un même point situé au centre de l'écran, les étoiles se séparaient juste sous leur nez, puis disparaissaient de chaque côté de l'écran à une vitesse hallucinante. Certains points se dédoublaient, puis devenaient globuleux. Des lambeaux de brume laiteuse se dissolvaient en myriades de points lumineux, et toujours cette illusion de vitesse impressionnante.
« Vous remarquerez, dit Chanis, que nous suivons la ligne directe qui unit Trantor à la nébuleuse de Pelote. » Si bien que notre orientation stellaire est équivalente à celle de Trantor. Je ne tiens pas compte d'une légère déviation due à l'effet gravitationnel sur la lumière, et je ne dispose pas des moyens mathématiques nécessaires pour la calculer, mais je suis persuadé qu'elle est insignifiante. »
Une obscurité grandissante envahissait à présent l'écran. Le rythme de l'agrandissement se ralentissant, les étoiles quittaient comme à regret les bords de l'écran. Sur les franges de la nébuleuse sans cesse en expansion subjective, l'univers constellé d'étoiles redoublait d'éclat, comme pour compenser l'absence de la lumière dissimulée par les nuages d'atomes de sodium et de calcium qui remplissaient des espaces dont le volume se chiffrait en parsecs cubiques.
Chanis braqua de nouveau son index.
Voici le secteur de la bouche, comme l'appellent les habitants de cette région de l'espace. Et ce détail a son importance. Cette zone-là ressemble effectivement à une bouche, mais seulement si on la regarde depuis Trantor.
Chanis indiquait à présent une cassure nette dans le corps de la nébuleuse qui affectait grossièrement la forme irrégulière d'une bouche grimaçante, vue de profil, délimitée par la splendeur éblouissante des étoiles dont elle était remplie. Suivez la bouche vers l'intérieur de la nébuleuse, jusqu'à l'endroit où elle se rétrécit au point de ne plus former qu'une mince ligne de lumière irrégulière.
L'agrandissement reprit, plus lentement. La nébuleuse, s'écartant de la bouche, envahit bientôt toute la surface de l'écran. Sans rien dire, Chanis suivit alors du doigt la mince ligne de lumière qu'il venait d'indiquer jusqu'à son extrême limite et poursuivit jusqu'à aboutir à une étoile qui brillait, solitaire, au milieu de nulle part. Il n'alla pas plus loin. Au-delà, tout n'était que ténèbres, les ténèbres insondables du vide intergalactique.
Finistère, se contenta de dire le jeune homme. La densité de la nébuleuse est particulièrement faible à cet endroit. Et cette petite étoile solitaire brille si peu qu'elle n'est visible que dans cette direction. C'est pourquoi on ne la voit briller que sur Trantor.
« Vous essayez de me dire que… »
La voix du général retomba dans un silence chargé de suspicion.
« Non. Je vous l'affirme. Voici Finstellis. Finistel. Là où finissent les étoiles. »
Les lumières réapparurent. Le galactoscope s'éteignit. Preacher rejoignit Chanis en trois longues enjambées.
Qu'est-ce qui vous a donné cette idée ?
Chanis se renversa sur son siège, l'air bizarrement intrigué.
Un concours de circonstances fortuites.
J'aurais bien aimé m'en attribuer le mérite, mais il s'agit d'une découverte accidentelle. Quoi qu'il en soit, tout concorde. Si j'en crois nos archives, Finstellis est une oligarchie. Son autorité s'étend sur 27 planètes habitées. Son développement scientifique est médiocre. Mais surtout, c'est un monde mineur qui a adhéré à une politique de stricte neutralité dans cette région stellaire, sans manifester aucune visée expansionniste. Nous devrions aller voir ça de plus près.
Avez-vous informé le mulet de votre découverte ?
Non. Et nous n'en ferons rien. Voyez-vous, nous sommes déjà dans l'espace. Nous sommes même prêts à faire le premier saut.
Pris d'une horreur soudaine, Preacher se précipita vers le visicran. Les immensités glacées de l'espace s'étalèrent devant ses yeux lorsqu'il eut réglé l'appareil. Il contempla fixement le spectacle, puis se retourna. Automatiquement, sa main se rassura au contact de la courbe dure et familière de la crosse de son désintégrateur.
« En vertu de quels ordres ?»«
Des miens, général. » C'était la première fois que Chanis s'adressait à son interlocuteur en utilisant son grade officiel. « En vous amenant ici, j'ai détourné votre attention. Vous n'avez probablement pas ressenti les effets de l'accélération parce que le départ s'est produit au moment précis de l'agrandissement de l'image du galactoscope. Vous avez très certainement pris la secousse pour une illusion provoquée par le déplacement apparent des étoiles.
Pourquoi ? Où voulez-vous en venir à la fin ? À quoi rimaient toutes vos théories farfelues à propos de Finstellis ?
Ce ne sont pas des théories. Et tout cela n'a rien de farfelu, je vous l'assure. J'étais on ne peut plus sérieux. D'ailleurs, c'est précisément à Finstellis que nous nous rendons. Si nous avons pris l'espace sans attendre, c'est parce que notre départ officiel était fixé dans 3 jours. Général, contrairement à moi, vous ne croyez pas à l'existence d'une seconde fondation. Vous vous contentez d'obéir aux ordres du mulet. Mais vous n'avez pas la foi.
Moi, si. Je sens venir le danger. Depuis maintenant 5 longues années, la seconde fondation a eu tout loisir de se préparer. De quelle façon, je l'ignore. Mais rien ne nous empêche de penser qu'ils entretiennent des agents sur Kalgan. Si j'ai à l'esprit les éléments qui me permettent de repérer la seconde fondation, qui me dit qu'ils ne vont pas s'en apercevoir? Dans ce cas-là, je ne donne pas cher de mon existence. Or, il se trouve que j'y tiens beaucoup, voyez-vous, à mon existence. Si minime que puisse être le risque, je préfère ne pas le courir. Grâce à mon petit subterfuge, vous êtes le seul à connaître l'existence de Finstellis, et vous vous trouviez déjà dans l'espace lorsque vous en avez été informé. Mais je ne suis pas tranquille pour autant. Reste le problème de l'équipage.
Chanis se mit à sourire à nouveau, un sourire ironique et satisfait qui montrait assez qu'il avait pleinement conscience de maîtriser parfaitement la situation. Preacher laissa retomber ses bras le long de son corps, lâchant du même coup la crosse de son désintégrateur. Il se sentit assailli l'espace d'un instant par un vague sentiment de malaise. Qu'est-ce qui pouvait bien le retenir ainsi d'agir? Qu'est-ce qui le paralysait donc à ce point?
Au temps où il n'était qu'un capitaine rebelle agissant pour le compte de l'empire commercial de la première fondation, c'eût été lui, et non Chanis, qui aurait pris une telle initiative audacieuse.
Le mulet avait-il donc raison?
Son esprit sous influence était-il à ce point assoupli par l'obéissance qu'il avait perdu toute faculté d'initiative?
Un abattement incoercible s'empara alors de lui, accompagné d'une étrange lassitude.
Bien joué, finit-il par constater. Néanmoins, vous voudrez bien me consulter dorénavant lorsque vous voudrez prendre des décisions de cette nature.
Un signal clignotant attira alors son attention.
C'est la chambre des machines, remarqua Chanis sur un ton indifférent. Je leur ai dit il y a 5 minutes de commencer à faire chauffer les moteurs et je leur ai demandé de me prévenir s'il se passait quelque chose d'anormal. Mais c'est vous le patron maintenant.
Preacher hocha la tête sans répondre.
De se voir soudain seul au poste de pilotage le plongea aussitôt dans une rêverie morose où le spectre de la cinquantaine jouait le plus mauvais rôle. Quelques étoiles parsemaient chichement le visicran de bord. Le gros de la galaxie apparaissait sous la forme d'un halo persistant sur l'un des côtés de l'écran. Qu'adviendrait-il s'il était un jour libéré de l'influence du mulet? Mais un frisson d'horreur le parcourut à la simple évocation d'une telle perspective.